Page 140, on est trois lignes avant la fin de la page. C'est Moshe Rabbeinu qui parle à Kadosh Baruch Hu. Et donc, qui lui dit, Va Yomer Moshe l'ifne Hashem, donc juste avant de démarrer sa mission, juste avant de démarrer sa mission, donc sa mission de sauvetage du peuple d'Israël, on nous raconte, on nous dit que Va Yomer Moshe l'ifne Hashem, Moshe Rabbeinu a dit devant Dieu. Donc on verra ce que Rashi va expliquer. Ça veut dire quoi qu'il a dit devant Dieu. Il n'a pas dit à Dieu.
Pourquoi pas être Hashem?
À Dieu. Il a dit devant Dieu. Donc déjà on va voir ce qu'il lui a dit. Et après on va voir pourquoi on dit qu'il dit devant Dieu. En ani aral sefataim. En ani aral sefataim. Tu sais très bien. En, voyons, je suis aral sefataim. Sefataim en hébreu c'est quoi? C'est les lèvres. Et aral c'est quoi? Arel. D'accord? Incirconcis. Donc incirconcis des lèvres ça veut dire quoi? C'est-à-dire je suis quelqu'un qui n'a pas assez bien aiguisé mes lèvres. Ça veut dire je ne sais pas bien parler. Ve'er Ishma Elai Paro, et comment tu veux que Paro m'écoute?
Que je parle.
Alors, ce que Rashi nous fait remarquer qu'en vérité, c'est pas la première fois qu'on entend Moshe Rabbeinu dire ça, a priori. Moshe Rabbeinu, à la fin de la paracha Shemot, il a déjà dit.
Il n'a pas pris ce mot.
D'accord? Il n'a pas pris exactement ce mot, il y a une différence d'un seul mot, c'est tout que Rashi va nous dire tout de suite, mais c'est pratiquement la même chose. Moshe Rabbeinu a dit pratiquement la même chose. Donc pourquoi? Donc on a deux questions ici. D'accord? Donc, premièrement, ça veut dire quoi que quand on dit que Moshe Rabbeinu dit l'ifné Hashem, Moshe Rabbeinu dit devant Dieu? Ça c'est premier point. Et deuxième point, a priori, on a l'impression que Moshe Rabbeinu se plaint encore une fois, alors qu'a priori, c'était une affaire conclue. On a déjà conclu ça dans la fin de la paracha Shemot. Moshe Rabbeinu il s'est plaint, il a donné tous les arguments possibles et inimaginables. Il dit je sais pas parler, ils vont pas me croire, et un signe ne suffit pas, il m'en faut deux, il m'en faut un troisième, et je veux pas aller seul et d'envoyer quelqu'un d'autre. Et à la fin, on a fait un marché. C'est quoi le marché qu'on a fait? C'est que Aaron ira avec toi.
Tu vas parler.
Aaron ira avec toi, c'est lui qui parlera et c'est toi qui lui donnera les instructions.
Ah, il est bloqué.
Donc ça y est, on a conclu. Après, il est parti. Après, on recommence ici.
Parce que, visiblement, il voulait démissionner parce que, pourquoi tu le raides? Oui, tu m'as vu, on l'a refait du mal.
Monsieur Benou, c'est un mensch. C'est engagé, c'est fini.
Un homme sérieux.
C'est pas sérieux, ça.
Un homme sérieux, c'est peut-être un flambeur. Attends, mais il revient de... On
d'accord.
Sait pas où.
Alors, on va dire, Rashi. D'accord. Alors, on va dire, Rashi. D'accord.
Vous savez, vous, ce qui s'est passé pendant 50 balais, bon, on l'a pas vu.
On va voir ce qu'il dit, Rashi, M. Bissou. Si ça vous dérange pas.
40 ans.
D'accord.
Plus que ça, il est parti.
40 ans, il a raison. D'accord. D'accord, donc ça, c'est une question que pose le Ramban, le Abarbanel, le Alshir HaKadosh. C'est une question qui, tous ces commentaires, ils posent, ils disent, a priori, comment ça se fait que Moshe Rabbeinu repose la même question et pour recevoir la même réponse. Vous allez voir que la réponse que Dieu va lui donner, c'est exactement la même réponse qu'il lui a donnée à la fin de la paracha Shemot. Et tu iras avec ton frère Aaron, et Aaron, c'est lui qui te représentera, et il parlera à ta place, etc. Je veux dire, qu'est-ce qui a changé?
Mais là, il a dit, tu seras d'accord comme un dieu et lui, il sera ton prophète.
D'accord, non, mais c'est la même chose.
C'est lourd. Hein.
A priori, c'est la même. On va voir la réponse de Rashi. Après, on va essayer de voir la réponse des autres mefarshim, des autres commentateurs. Donc on a une première réponse qui est la réponse de Rashi. Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Yomer Moshe l'ifne Hashem. Donc vous prenez la colonne de gauche, 6 lignes avant la fin de la page. Rashi dit I Amira Shamar Lemala. C'est exactement la même chose. Amira, donc c'est la parole, Shamar Lemala que Moshe avait déjà dit plus haut, précédemment. En Bene Israël le Shamu Elai. On rejoint exactement ce que Moshe Rabbeinu a dit juste avant. En Bene Israël le Shamu Elai, il a dit les Bene Israël déjà j'ai du mal à leur parler et comment tu veux que Paro m'entende? C'est-à-dire qu'il a déjà dit cet argument, c'est pas un argument qui est nouveau. Après il le répète.
Après il le remet.
Alors, Rashi, il a une explication intéressante. Rashi te dit non. Rashi dit c'est pas Moshe Rabbeinu qui a répété, c'est le verset qui répète. Veshana akatufkan, c'est le verset qui répète. Pourquoi? Kevan sheifsi kainyan kach. Kevin Shifsi Kainyan, d'accord, puisque on a fait une interruption entre temps, parce qu'entre temps, c'est vrai qu'on nous a dit que Moshe Rabbeinu a commencé la libération, mais après on s'est mis à la paracha, hein, a fait une pause, d'accord, on s'est mis à parler de la famille de Moshe, et de Kehat, donc on revient au sujet. Vekar Yashita, et c'est comme ça à l'habitude, qu'Adam à Omer, comme un homme qui dit, Nachazor à la Rishonote. Bon, alors revenons
à nos moutons,
d'accord. Revenons à ce qu'on est en train de dire.
Ouais.
Et donc automatiquement, quand tu reviens à ce que tu es en train de dire, tu répètes un petit peu.
Ouais. Sur ça.
D'accord. Pardon.
Juste sur ça.
Non, parce que c'est la fin de la saga.
On répète juste ce qui est problématique.
Exactement. Donc ça, c'est la réponse de Rashi. pense de Rachid. Rachid ne va pas chercher midi à 14h. Ne crois pas que c'est Moshe Rabbeinu qui répète une deuxième fois et qui fait kick. D'accord ? Ah, j'ai dit tout simplement, c'est la Torah qui répète parce qu'on veut, se remettre dans le bain pour se rappeler où on était. D'accord ? Bon, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse.
Bon, allez, 8 non. sur 10.
C'est une bonne réponse, mais je vais vous sortir le Ramban.
L'Armanide, il n'est pas du tout d'accord avec
C'est mon mitraille
de... Oui, que j'ai trouvé caché là-bas, que j'ai mis là.
Ah, c'est vous qui l'avez trouvé?
Oui, il était derrière.
Mais... combien de temps je vais chercher? J'ai cru qu'il est tombé du ciel. Alors.
C'est un peu ça, d'ailleurs.
C'est son surnom, Bismuth Ciel.
Ah, c'est extraordinaire, ça. Non, c'est le mien, en plus, je me disais. Alors, voilà, le Ramban. En béni Israël, le chameau Elaï. D'accord. Alors, donc le Ramban il pose la question, mais il pose la question donc déjà un petit peu avant, et donc il c'est pas sur le pasouk, sur quelques versets avant, et donc il pose la question, il dit a priori comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu a eu besoin de que Moshe Rabbeinu a eu besoin de répéter a priori la question. Donc il y a la réponse de Rashi qui est une réponse intéressante, mais bon c'est étonnant quand même que juste ce point-là on le répète et on répète la question et la réponse. D'abord c'est pas comme ça qu'on en fait dans une discussion. Comment on aurait dû faire? On dit, bon, alors rappelons-nous la conclusion qu'on avait dit, c'est que tu vas aller. Là, on a rappelé carrément la question de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'apparemment, Moshe Rabbeinu, il a reçu la réponse à sa question déjà précédemment, mais cette réponse n'est pas vraiment suffisante. Il a besoin encore d'être rassuré. Pourquoi il a besoin d'être rassuré? Qu'est-ce qui se passe? D'accord?
Parce qu'ils ont alors,
d'abord, on va lire ensemble la réponse de Dieu. Après, on va essayer de décortiquer qu'est-ce qu'il y a de nouveau, quel élément nouveau il y a dans cette paracha par rapport à ce qu'on savait déjà dans la paracha la semaine dernière, que Moshe Rabbeinu s'était déjà engagé, enfin il a dit ok apparemment, il a dit ok, pas de problème, j'irai. Donc on va lire ensemble la réponse d'Akadosh Baruch Hu dans Perek Zayin. Vous avez Perek Zayin? Juste, donc c'est page 140 toujours. Page 140 toujours, prochain pasouk. Vayomer Hashem el Moshe. Donc là c'est Dieu qui parle à Moshe. Et donc la réponse à la question de Moshe, qui a priori rien de nouveau. Ré-é, regarde, ça veut dire prends conscience du fait que Netaticha Elokim le Pharaon.
Ah. Le verbe m'a étonné déjà.
Très bien. Qu'est-ce qu'il dit, Monsieur Bissou? Je dis a priori, il y a quelque chose de nouveau ici, c'est que Kakadosh Baruch Hu est en train de dire, regarde, Netaticha Elokim le Pharaon, je vais te rendre Elokim le Pharaon. Ça veut dire quoi Elokim le Pharaon? Comment vous comprenez ici? Elokim, c'est quoi Elokim en hébreu? Alors, Elohim, c'est un dieu. Alors, ça veut dire quoi quand Hachem est en train de dire à Moshe, il lui dit, je t'ai rendu dieu pour Pharaon. Comment vous comprenez ça?
Comme divinité, pas comme dieu.
Ben, ça veut dire quoi? En clair, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que tu vas avoir des pouvoirs qui vont l'effrayer.
Alors, Elohim, c'est un attribut, on l'a répété plusieurs fois, qui est lié à quoi? Qui est lié à la rigueur. Donc, de manière générale, quand on veut mentionner le fait que Kadosh Baruch Hu juge les hommes, d'accord, la justice, le fait qu'il est juge, on mentionne le nom de Elohim. D'accord, Elohim, on est d'accord? Bon. Alors, Elohim en hébreu, ça veut dire, Elohim en hébreu, quel rapport entre Elohim et la force? Vous avez déjà posé cette question?
Ben, la force du jugement.
Non, mais quel rapport entre Elohim et la rigueur?
C'est qu'un Elohim, il est, par définition, fort.
Alors, on va essayer d'analyser ensemble tout ce qu'on a aujourd'hui dans l'étymologie du mot Elohim. La racine du mot Elohim, d'où vient le mot Elohim? D'accord. La racine du mot Elohim, c'est quel. On est d'accord? Bon, quel, ça veut dire quoi en hébreu?
Divinité.
Eh ben non.
Un dieu.
Quel, ça veut dire une force.
Ou un personnage très puissant.
Quel, ça veut dire une force. Dans le Nahr, on retrouve par exemple, c'est écrit qu'à un certain moment, il y avait une guerre, et c'est écrit, Vet Ele Aharet Lakar. Il a pris les plus forts de la terre. Donc, elle, d'accord, dans le sens que je suis en train de dire, c'est pour ça que je dis pas quel, c'est synonyme de force. Et donc quand Akadosh Baruch Hu, il dit ici Re'e Netaticha Elohim le Pharo, d'accord, donc en vérité c'est pas Elohim que je veux dire, je peux même dire Elohim. Parce que c'est pas un nom de Dieu là.
Comme le Bnei Elohim dans.
D'accord. C'est pas un nom de Dieu. On a quelques exemples dans la Torah comme ça, c'est très rare. On a quelques exemples dans la Torah, des noms de Dieu, d'accord, mais qui ne sont pas considérés comme un nom de Dieu. D'accord? Comme par exemple Elohim Acherim.
Les autres dieux.
D'autres dieux. Il y en a d'autres?
Non.
Hein, il y en a d'autres, alors que j'ai...
Donc, il y a d'autres forces, effectivement.
La vanne, d'accord. Tu m'as volé mes Elohim.
Non, mais voilà, tu m'as volé mon Elohim. Exactement. Voilà. Tu m'as volé mon Elohim. Comment c'est possible? Parce que ça, c'est pas un nom de Dieu.
Bon, c'est écrit d'accord. Pareil.
Ça, c'est ça le piège. C'est que selon le contexte, voilà l'importance du contexte. D'accord. Selon le contexte, des fois ça peut vouloir dire un nom de Dieu, et des fois carrément on peut parler de force négative. Et vous voyez comment, jusqu'à où on peut aller? Donc a priori ici, on parle pas d'une force négative, mais c'est pas un nom de Dieu. Donc Vayomer Hashem El Moshe, je relis le pasouk.
C'est qui dit ça?
On va voir, c'est Rashi qui va dire ça. Re'e netaticha Elohim le pharaon. Regarde, je t'ai rendu comme Elohim. Donc Elohim, on a dit. Ça veut dire comme un, tu auras un rôle de puissance, les pharaons envers pharaon. Et continue, Ve'aaron achicha yé nevi'echa. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Alors, vous voyez, encore une fois, si on n'a pas Rashi, je lis littéralement le verset. Traduis-moi littéralement le verset, Guy. Qu'est-ce qu'il dit le verset, littéralement?
Dieu dit à Moshe, vois, je t'ai fait.
Regarde.
Enfin, je t'ai donné un Elohim.
Je t'ai rendu.
Oui, mais moi je lis, je t'ai donné.
Oui, d'accord. Non, mais Netatira, ouais. Ça veut dire je t'ai fait. Oui, bon.
Oui. Donc, donné. Non,
d'accord.
Non,
c'est pas Nathan. Je t'ai rendu.
Le Noun. Ah. J'ai regardé ce matin.
Non, ça vient de Nathan.
Ah, bah alors.
Ça vient de Nathan.
Alors, tu vas voir, parce qu'il y a une deuxième fois, il y en a.
Ça vient de la tête. C'est la même racine. Netatira. Donc, Dieu dit.
Pourquoi on le traduit par rendre?
Parce que.
Alors, c'est contraire. Quand on dit.
Alors, c'est une bonne question. Parce que la tête en hébreu, ça veut dire donner, mais ça veut dire aussi faire quelque chose. Ça veut dire faire quelque chose à une tierce personne.
La tête et Nathan, c'est pas la même grammaire, je suis désolé.
Bien sûr. C'est la même chose. C'est des formes grammaticales. C'est
tout. Pourquoi vous prenez pas le nous?
Alors, deux secondes.
Nathan,
c'est voisin, mais c'est pas.
Nathan. C'est la même chose. Alors. Donc, c'est un cadeau, ça vient de Nathan. Je reviens. Donc, Dieu, on va traduire littéralement.
Je t'ai rendu comme une.
Si on n'a pas Rashi, Dieu, il dit, bon, je t'ai rendu un Dieu et Aaron sera ton prophète. Pas mal.
Elle est belle.
Littéralement, c'est ça. Je t'ai rendu un Dieu et Aaron, c'est ton prophète.
Alors, c'est pas ça du tout.
Tu avais pensé à.
Je voulais pas le dire, mais.
Vis-à-vis de.
On est dans la bonne semaine. Dans la mauvaise semaine. Je t'ai rendu Dieu et Aaron sera ton prophète. C'est chaud, non?
Oui, puisque c'est Aaron qui va parler et Moshe qui pontifie.
Alors, heureusement qu'on a Rashi, parce que sinon on est à côté de la plaque. Vous imaginez ce qu'il veut dire ce verset si on le traduit littéralement?
Oui, mais enfin, faire des versets qui sont ambigus alors que c'est un texte
qui est donné
au grand public, il cherche les histoires, parce que c'est vrai que tu peux l'interpréter comme tu veux.
D'accord, alors venez, on va lire ensemble.
Il y a des millions de personnes qui n'ont pas ce qui est Rashi ou ni Ramban.
Mais je comprends pas, on parle des anges comme étant des élections.
Oui, aussi.
Deux secondes.
Pourquoi un homme ne pourrait pas
être un élection? Tu as raison, c'est une
question.
Pourquoi un homme ne pourrait pas être un élection? Un homme est aussi un
élection. Oui, d'accord.
Mais les juges sont.
Là, tu rentres déjà dans le commentaire. Tu dis que Elohim, ça veut pas dire forcément un dieu. Elohim, ça peut vouloir dire une force.
Non, ça veut dire un représentant de Kadosh Baruch.
Très bien. Bon.
Comme un ange.
Non. Elohim, nous, on a toujours appris, Elohim, c'est un dieu. Donc là, celui qui traduit littéralement ce verset, il dit, Dieu dit à Moshe, je t'ai rendu Dieu et Aaron sera ton prophète.
Pas mal. Il a bien rendu des anges, Elohim.
Non, on a bien expliqué que quand on dit Elohim chez les anges, ça veut pas dire qu'ils deviennent des anges, ça veut pas dire qu'ils deviennent des dieux, ça veut dire qu'ils ont une force.
Mais cette question que tu poses pour Moshe, on aurait pu la poser pour les...
Tu as raison.
Alors
oui.
Pourquoi on la pose chez Moshe?
C'est pas une question. Là, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on dit... On est en train de dire, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, il lui dit, je t'ai rendu Dieu et Aaron sera ton prophète. Et ça, c'est suite à quoi? Suite à la question de Moshe, qu'est-ce que dit Moshe?
Aaron, c'est fatigué.
J'arrive pas à parler. Qu'est-ce qu'il lui dit? T'inquiète pas, je t'ai rendu Dieu.
C'est pas toi qui va parler.
Et ton prophète, c'est Aaron. C'est quoi cette réponse? C'est quoi cette question? C'est quoi cette réponse? Alors, on va lire Rashi ensemble. Netatira Elohim les pharaons. Donc, 4 lignes avant la fin de la colonne, et après, on va commenter Bezrat Hashem, le commentateur. D'accord? Netatira Elohim les pharaons. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi dit, ça veut dire quoi que je t'ai rendu un Elohim? Rashi dit, c'est pas Elohim comme un dieu. Chofet Vérodé. Regardez bien les mots de Rashi, parce qu'on va s'arrêter dessus. Chofet, un juge. Vérodé. Rodé, c'est une personne, alors c'est pas comme Rodé en français, Rodé, c'est une personne qui, aujourd'hui on aurait dit en français, qui mate. Qui éduque.
Ah. Mate. Donc c'est l'exécuteur d'accord. De la peine.
Alors, c'est pas exactement
ça. C'est un bourreau.
Ça, c'est un bourreau.
Juge et bourreau, c'est dur.
Non, c'est juge et police.
Non, là, c'est... Non, attention, on n'a pas parlé de Shoter. Ça, c'est ce que tu dis, c'est le rôle du Shoter.
Non.
Dans le Beit Din,
c'est le juge.
Dans le Beit Din, on avait le juge et le bourreau.
Bien sûr.
D'accord? On avait le juge et le bourreau.
Alors. Donc, il est arrêté par la police, il est jugé, et c'est le juge qui dit la mort. Il est gros comme un chat.
C'est le juge qui le tue.
Non.
Non.
C'est la police.
Non, il est toujours un bourreau. Un Shoter. Les Shoter. Shoftim Veshotim.
Oui, c'est le bras armé du.
T'as raison,
c'est
t'as
ça,
raison.
C'est la même chose.
C'est Shoftim Veshotim, comme on dit dans la paracha Shoftim. Shoftim Veshotim, il y a des juges et des policiers. C'est quoi la différence entre le juge et le policier? Le juge, c'est celui qui fait la loi, c'est législatif, d'accord?
Et l'exécutif.
Et c'est l'exécutif. Shoftim Veshotim.
C'est pas les policiers qui le tuent, excuse-moi.
Quoi? Non, mais dans le sens de la Torah, c'est ça un shoter. Policier, c'est un exécutant.
Dans le sens de la Torah.
Celui qui exécute la loi. Un exécutant.
C'est pas le juge.
Un exécutant. Il est là pour exécuter la loi. Ça, par exemple, Monsieur Sarkozy va décider quelque chose, et lui, il est là pour exécuter la loi. Il est pas là pour, légiférer. D'accord? Il est pas là pour légiférer là. Très bien. Alors. On revient à notre sujet. Parce que regardez bien le rabbi.
Il nous dit, c'est le règlement.
Le rabbi?
Vous allez voir ce que le rabbi va expliquer sur Rachid. Il faut bien faire attention aux mots de Rachid. Voilà. Alors, Shofet. Donc, Moshe Rabbeinu, Dieu lui dit, toi, tu seras un Elohim. C'est quoi Elohim, Rachid dit? On parle pas ici de Elohim comme nom de Dieu, mais c'est un Elohim. C'est quoi Elohim? Rachid nous dit, Shofet. Un policier, Vérodé, et une personne qui va, j'aurais dit aujourd'hui, qui va éduquer ou qui va former. Mais former dans le, sens négatif du terme. C'est-à-dire,
ça vient de redève, de poursuivre.
Non. Ça vient du mot rodé. Rodé, c'est, en général, on dit rodé, on fait ça avec un bâton. Rodé, l'air d'auto, bémakot, veissourim, pour l'éduquer, donc pour le dompter. C'est un terme qu'on utilise pour dompter. Bémakot, veissourim, avec des coups et des épreuves. Est-ce que vous remarquez ici les mots de Rachid?
Ouais, c'est pas mal. C'est étonnant parce que quand même, ça veut dire que Paro, Hachem, il veut l'éduquer, il veut pas le tuer.
Oui, il veut l'éduquer. On va faire de l'éducation maintenant.
Donc ça veut dire qu'il y tient.
Oui. Est-ce que vous remarquez les mots de Rachid? Un juge, d'accord, et donc une personne qui va éduquer, qui va former, et comment il va l'éduquer, comment il va le dompter, avec des coups et des épreuves. Des coups et des épreuves.
Comme un animal
comme
sauvage.
Non, comme nous.
Non, attention, c'est quoi les coups et c'est quoi les épreuves? Comment vous comprenez ça?
Makot, c'est les dix makot.
Oui.
Et les sourines.
C'est la même chose, non? Les coups et les épreuves.
Non.
C'est quoi la différence entre les coups et les épreuves?
Les épreuves, si.
Un coup, ça fait mal. On
les
sait
épreuves,
pas pourquoi.
C'est par exemple quand Kadosh Baro, il a dit à Paro, laisse sortir Bélisra, etc.
Ouais.
Là, il a dit non. Elle a dit oui, après il a dit non. Là, il a eu une épreuve aussi.
C'est quoi la différence entre le coup et l'épreuve? C'est quoi un coup et c'est quoi une épreuve?
L'épreuve, on sait que ça vient de Kadosh Baro.
Une seconde. On va définir ensemble. C'est quoi un coup et c'est quoi une épreuve? Un coup, c'est quoi? Un coup, naturellement, c'est quelque chose qui fait mal.
A priori.
D'accord? Donc c'est quelque chose qui est lié en général au physique. Une épreuve,
c'est ça, prendre un coup.
Tu as raison. D'accord. Tu as raison. Mais en général, d'accord. En général, un coup, c'est lié à une souffrance physique, une souffrance palpable. D'accord. C'est-à-dire que par exemple, j'ai pris un coup, je sens que j'ai pris un coup, même si c'est pas un coup physique. Une souffrance, c'est autre chose. Une souffrance, c'est complètement autre chose.
Pourquoi tu parles de souffrance?
Ah, parce que j'ai dit, il sourine.
Ah oui, mais c'est pas une épreuve alors.
Ah non. D'accord. C'est une souffrance. D'accord. Il sourine, c'est une épreuve, mais c'est dans le sens souffrance. Quel rapport avec, c'est quoi une souffrance? Une souffrance, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. On peut avoir une personne, par exemple, une personne qui est manipulée, qui ne va pas forcément prendre un coup. Elle va pas prendre un coup. Mais elle va souffrir énormément. Après, elle va souffrir. Il va souffrir parce qu'il sent qu'il n'est plus maître de soi, qu'il n'arrive plus à maîtriser la situation. Ça, c'est une souffrance énorme. C'est pas un coup. Il n'a pas pris le coup encore. Les dés n'ont pas encore été jetés. On est encore dans le jeu. Mais, il a une souffrance. Et c'est ce qui va se passer avec Paro. Ce qui va se passer avec Paro, c'est qu'il aura les deux. Au travers de Moshe Rabbeinu. Il aura Makot et Issourim. Et il va souffrir, c'est-à-dire qu'il va recevoir des coups. Son pays va prendre des coups. Et à part ça, il aura les Issourim, ça veut dire qu'il aura une souffrance, c'est-à-dire qu'il ne saura jamais sur quel pied danser. Lequel est pire d'après vous?
Les Issourim.
C'est clair que c'est les Issourim. D'accord? Et qui c'est qui va gérer tout ça d'une main de maître? C'est Moshe. D'accord? C'est Moshe Rabbeinu qui va gérer tout ça. Ça c'est, d'accord? Ça c'est quelque chose. Donc ça veut dire comme ça. Le Rabbi explique qu'est-ce qu'il veut dire ici à Kadosh Baruch Hu Moshe Rabbeinu. Il veut dire la chose suivante. Il veut dire ici que il y a des fois des choses que tu essaieras d'expliquer à Paro par la logique et que Paro ne comprendra pas. C'est extraordinaire, un très beau pirouche que le Rabbi explique. Je pense que c'est basé un peu sur le Ramban aussi. Ça veut dire qu'il y a des fois tu essaieras d'expliquer à Paro. Hachem prédit à Moshe Rabbeinu. Et c'est ça le chidouche de ce pasouk. C'est que, jusqu'à présent, Moshe Rabbeinu savait que de manière générale, sa mission, c'était de transmettre à Paro, et puis il peut le faire. Là, Kadosh Baruch Hu explique à Moshe Rabbeinu les pouvoirs surnaturels qu'il aura. Il lui dit, regarde.
Non, mais c'est un sale boulot.
Attendez deux secondes. Il lui dit, regarde. Tu vas des fois expliquer des choses à Paro, et il ne les comprendra pas. Tu essaieras d'expliquer des choses à Paro, et il les comprend. Pourquoi il ne les comprendra pas? Pas parce que ce que tu diras n'est pas logique. Pas pour ça. Parce que lorsque Mitzrayim, lorsque la Klipa, lorsque le mal de l'Égypte est à son niveau le plus fort, on ne peut pas la convaincre avec la logique. Mitzrayim, quand ça représente donc les plaisirs, ça représente les plaisirs, ça représente même le fait de suivre son cerveau, de suivre son envie de faire les choses. Akadosh Baruch est en train de prévenir Moshe Rabbeinu ici. Pourquoi il lui parle ici de juger, de frapper? C'est pas ça, Moshe Rabbeinu, il dit, mais moi je suis un homme de parole, moi je parle, il n'y a pas de problème, je parle, je discute. Aaron, il parlera à ma place. D'accord? D'ailleurs, on a vu qu'a priori, c'est ce qui va se passer dans la suite. Aaron va parler. Rashi explique, selon ce que le Rabbi explique, Akadosh Baruch est en train de dire à Moshe Rabbeinu, il lui dit, ton rôle ne sera pas seulement de parler. Ton rôle ne sera pas seulement de parler, ton rôle sera également de faire passer des choses qui ne passent pas au travers de la parole. Dans ce qu'on appelle le non-dit. Parce que finalement, est-ce que Moshe Rabbeinu va frapper? Est-ce que Moshe Rabbeinu va frapper ici? Moshe Rabbeinu va jamais frapper. Moshe Rabbeinu, au travers de la parole, il va être capable de faire souffrir Paro, mais d'une manière qui n'est pas logique. Voilà pourquoi, explique le Rabbi, voilà pourquoi, pour expliquer la force particulière que Moshe Rabbeinu aura, quel terme le verset a employé? Le terme de Elohim. Pour nous dire que ça, en vérité, c'est une force surnaturelle. C'est une force surnaturelle, parce que normalement, on sait ce que la Gemara nous dit. La Gemara Brachot nous dit, vous avez déjà fait la page 7?
Ah, largement, ça fait trop longtemps.
Quelle page vous êtes?
Oui,
Amoud Bet, Amoud Aleph, Amoud Bet. Vous avez déjà fait Imraïta Racha, Shaasha, Mesareketlo, Altit Garebo. Traduction.
Si jamais le. Il ne va pas te. Celui qui
est fort. Le rachat qui est fort ne va pas le.
Celui qui loue le rachat.
C'est comme,
c'est comme si c'était comme un rachat.
Non.
Celui qui tient la. Tu me parles à.
Non, si tu vois un rachat qui est fort, ne va pas le combattre.
Voilà.
Ne va pas le combattre.
Très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Sûrement vous comprenez.
Bah, quand il a son mazal,
ça veut dire que lorsqu'une personne a son mazal, lorsqu'un rachat a son mazal, ne va pas le chercher.
Attends.
Parce qu'il va te vaincre.
Tu vas me faire les marsoquettes.
Seconde.
Si c'est pas un tzadik gamour.
D'accord. Quoi qu'il en soit. La Gemara, c'est la conclusion de la Gemara là-bas. Imraïta racha, shaasham et sachaketlo, altit garebo. Si tu vois un rachat et que tu sens que l'heure, alors, traduction littérale, c'est l'heure lui joue, c'est-à-dire l'heure lui est favorable. Tu sens que c'est son heure. Tout ce qui touche, ça marche. D'accord? Altit garebo ne va pas l'exciter. Girouille en hébreu, ça veut dire quoi? C'est exciter. Ne va pas le chercher.
Altir gezo bater.
D'accord? Non, c'est pas la même chose.
C'est pas la même chose?
Non. Là, c'est tit garé. Les hit garot, ça veut dire?
Garim.
Ça veut dire essayer de l'exciter comme, l'excites. D'accord? Comme un feu. Non, pas comme un feu. L'énerver. Tu attises quelqu'un qui va exploser. A priori, ici, Moshe Rabbeinu fait exactement le contraire. Parce que Paro, c'est un exemple de rachat, Shasham et Sahekato. C'est l'Amérique de l'époque. C'est Obama. C'est la même chose.
D'accord, enfin, je ne sais pas trop. Hein, attendez. Il s'est passé des choses.
Non, attendez. Là pour l'instant. Bon, enfin, encore, quand même. D'accord.
C'est un nouveau roi. Hein,
oui, d'accord.
Dans 10 ans.
En tout cas, quand Paro est là, ce qu'on sait, c'est que Paro, c'est le meilleur exemple possible de rachat, Shasham et Sahekato, un rachat. Que c'est son heure.
Enfin,
d'accord. Bien. Seconde. Non, et alors?
Alors,
non, non.
Parce que HM, il a déjà abandonné.
Seconde.
Dans leur main.
Normalement, Altit Garebo. Normalement, il aurait dû dire à Kadosh Baruch Hu, c'est toi de t'en occuper. Moi, je peux m'en occuper. C'est trop dangereux. C'est son mazel est trop fort maintenant. Qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Il lui dit, regarde. Netaticha Elohim.
Tu veux être plus fort.
Je t'ai donné une force. C'est quoi la force qu'on vient d'expliquer? Qu'est-ce qu'a expliqué le Rabbi? C'est une force que ça veut dire que tu seras capable de parler pas seulement par la logique. Tu seras capable de convaincre, d'accord, dans un canal qui dépasse la logique. Ça, c'est quelque chose qui est plus fort que le rachat. C'est quelque chose que lui n'a pas. C'est quelque chose que normalement, il n'y a que moi qui a. Et ça, c'est une force que je viens de te donner. C'est pour ça que pour expliquer cette force, quel terme la Torah a employé? Elohim. D'où Rachi a retrouvé tout ça, d'accord, du mot Elohim.
Mais ça ne marchera pas,
d'accord,
je crois pas.
Seconde. Ça veut dire quoi?
Moi, ça n'est pas échoué.
Si, ça veut dire que quand est-ce que la Gemara a dit que si tu vois un rachat, que c'est son heure, ne l'embête pas? Quand est-ce que la Gemara a dit ça? La Gemara a dit ça seulement lorsque tu utilises des pouvoirs normaux. Alors tu dis, écoute, tu vois un rachat, c'est son heure, ne l'embête pas parce qu'il va te gagner. Enfin, il risque de te gagner.
Ouais.
Mais là, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, il dit, Nedatira Elohim. Donc là, on peut dire Elohim. Je t'ai donné une force particulière qui est normalement détenue que par moi. C'est quoi cette force? Toi, Moshe Rabbeinu, tu vas parler, mais cette parole aura un pouvoir comme un juge. Comme un juge et comme une comme un exécutant, ce qu'on a rien expliqué ici. Ça veut dire qu'au travers de ta parole, que ce sera même pas toi qui va parler. Parce que finalement, Pharo va entendre la parole de qui?
De son frère.
De Aaron. Alors on va essayer de faire une scène. C'est un pur rouge intéressant aussi ça. On va essayer de faire la scène. Qu'est-ce qui se passe? Imaginez-vous, on a Pharo qui parle. Et on a, moi, mon cher Benoît, je viens, je commence à parler, mais il comprend pas ce que je dis. Parce que je bégaye, parce qu'il comprend même pas ma langue. D'accord? Il y a un Aaron par derrière qui vient, qui va traduire ce que je vais expliquer. Donc, qu'est-ce qu'il voit Pharo devant lui? Il voit un vieillard en train de parler comme ça, en train de parler des choses que personne ne comprend. Et une autre personne qui répète de manière en égyptien, de manière intelligible, de ce que le vieillard vient de dire. Qu'est-ce que tu es en train de dire ici à
quelqu'un? Vieillard, Aaron, il a 3 ans de plus.
D'accord, bon. Sait, hein. En tout cas, il y en a un qui présente bien, un qui présente mal.
Non, c'est pas sûr, les deux présentent bien.
Ah ben non.
Il y en a un qui va pas parler directement.
Peut-être que vous avez vu les 10 commandements, mais Moshe Rabbeinu n'était pas comme ça. D'accord? Moshe Rabbeinu n'est pas comme ça. Moshe Rabbeinu, il présente mal. Il présente mal. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne veut pas prendre cette mission. On est d'accord? Il présente mal, Moshe Rabbeinu.
Comment ils l'ont reçu?
Qu'est-ce qu'il y a de particulier chez
Moshe Rabbeinu? C'était les lignes d'abord. Ils ont été
écoutez bien le cri du Rabbi. Qu'est-ce qu'il y a de particulier chez Moshe Rabbeinu? Ce qu'il y a de particulier chez Moshe Rabbeinu, c'est que Moshe Rabbeinu, Pharo ne comprendra pas ce qu'il va dire. Pour deux raisons. D'abord, il comprend pas sa langue, et en plus, il comprend même pas ce qu'il dit. C'est pas intelligible. C'est pas assez intelligible pour lui. Mais, ce que Moshe Rabbeinu va voir au travers de, ce que Pharo va voir au travers de Moshe Rabbeinu, il va voir une poignée. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire?
Non.
Il va voir une poignée. Une force.
Il le voit, mais il fait rien de ce
que tu as raison.
Si Moshe Rabbeinu avait parlé en direct, il aurait pas vu cette force?
Peut-être.
Alors, il aurait vu.
Tu as raison.
Alors, Moshe Rabbeinu, il pas parlé.
Bonne question. Quel est le rôle de Aaron? C'est une bonne question. On va voir ça après.
Il s'est parlé égyptien, en plus.
D'accord. Bien sûr. Là, il y a une mise en scène, là.
Et il a déjà fait le coup du serpent.
Non, mais attendez.
Qui c'est qui a fait le coup du serpent, alors?
Eh ben non.
Coup du bâton.
Encore une fois.
Qui a fait le bâton? C'est Aaron?
Oui. Encore une fois.
Là, c'est lui.
C'est Moshe. Le coup du serpent, à la limite, ça n'impressionne pas Pharo.
Les magiciens, ils ont les trouilles.
Parce que nous aussi, oui, mais attendez, ça, c'est pas ça ce qui impressionne Pharo.
C'est des magiciens quand même, les mecs.
Écoutez bien, c'est un grand chidouche que le rabbi dit.
C'est pas des magiciens, hein. C'est autre chose. Hein.
Parce que sinon, on comprend pas ce que Rachid veut dire ici. Ce Rachid-là, un policier pour l'éduquer avec des... On comprend pas ce qu'il veut dire, parce que Moshe Rabbeinu va rien faire. Moshe Rabbeinu va juste dire à Aaron, et Aaron répétera, qu'est-ce qu'il va faire Moshe Rabbeinu? Très très fort. Dit comme ça. Tu prends le serpent, tu prends tous ces miracles-là, ça n'impressionne pas Pharo. Parce qu'il a aussi des gens qui savent, ok, je sais pas faire ce coup, je fais d'autres coups. Ça impressionne pas Pharo. Qu'est-ce qui impressionne Pharo? C'est que Pharo, derrière Moshe Rabbeinu, il va avoir une certaine poigne. Une poigne qui est anormale, qui n'est pas logique. Qui n'est pas logique.
Ça, c'est le sourire.
D'accord? Deux secondes. Une poigne qui n'est pas logique, qui n'est pas normale. Ça, c'est un problème. Ça fait peur à Pharo. Parce que, ce qu'Akadosh Baruch Hu est en train de dire à Moshe Rabbeinu, il est en train de lui dire, tu vas essayer de parler, de raisonner Pharo, mais ça ne marchera pas. Parce qu'il est plus fort que ta raison. En raisonnement, il est plus fort que toi. Il est plus fort que toi, ou bien ton raisonnement ne marche pas dans sa tête. Tu vas devoir faire appel à quelque chose qui est plus fort que la logique. Qu'est-ce qu'on a vu que Moshe Rabbeinu a fait appel à plus haut que la logique? C'est pas les petits coups qu'il a fait, parce que les petits coups qu'il a fait, c'est quelqu'un qui n'impressionne pas Pharo. C'est la poigne qu'il avait dans sa parole. D'accord? Alors maintenant, on va essayer de comprendre ensemble quel est le rôle de Aaron.
Pourquoi il était impressionné par Aaron? Excuse-moi.
Encore une fois, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit c'est le non-dit.
Mais il n'a rien d'accord fait. Il a rien fait.
La force qu'a donnée Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, c'était une force qui était extérieure à l'Égypte. C'est-à-dire que l'Égypte avait un certain pouvoir.
Oui.
Il connaissait la magie, il connaissait, etc. Et la force qu'a donnée Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, elle était inconnue jusqu'à ce jour à l'Égypte.
Oui, mais encore une fois, c'est pas impressionnant ça.
Qu'il ait une force?
Non, c'est pas impressionnant.
Si, quelque chose qui le dépasse, c'est impressionnant pour Pharo.
Oui,
ça.
C'est impressionnant, mais c'est pas ça
le Yisurim.
D'accord. Non.
Pharo voyait quelque chose qui lui était extérieur.
Non, les Yisurim, on a expliqué, c'est la souffrance qu'il y aura, qui saura plus sur quel pied danser. Tantôt il veut les faire sortir, tantôt il se reprend, tantôt
c'est,
il
mais le Yisurim, c'est aussi les épreuves, dans le sens
horrible.
Que...
C'est ça d'ailleurs la manipulation. Comment,
on n'y est pas encore.
D'accord. C'est ça la manipulation.
Oui.
Comment manipuler, enfin, Dieu préserve, il faut jamais manipuler, mais comment manipule les hommes? C'est comme ça. C'est un coup tu le fais croire qu'il maîtrise la situation, et un coup tu le fais croire que c'est toi qui maîtrises la situation. Et c'est un coup comme ci, un coup comme ça. C'est comme ça qu'on manipule. La personne perd le contrôle. Toi qui perds le contrôle, ça y est, tu peux le récupérer. C'est ça la manipulation.
Elle est soumise.
Chez Mishmar. C'est ça la manipulation. Parce que dans la vie, on a soit des gens qui sont complètement finis, soit des gens qui font ce qu'ils veulent. C'est quoi les gens manipulés? C'est des gens qui savent plus s'ils sont soumis ou ils font ce qu'ils veulent. Ça, c'est la pire des choses. Chez Mishmar. C'est la manipulation. Alors je reviens à ce que je t'ai expliqué.
J'ai plutôt que c'est les gens qui sont soumis, mais bon.
Non, c'est trop chez quelqu'un qui est soumis. Quelqu'un qui est soumis ne souffre pas forcément.
Parce que évidemment, celui qui est, quand tu dis que là, il va faire quelque chose pour... Alors,
celui qui est soumis, il a makot, mais il n'a pas isourim. Une personne qui est soumise ne souffre plus. Il est soumis. Il va recevoir des coups. Le coup lui font mal, mais il n'a pas le isourim, il n'a pas l'épreuve. Parce que qui dit qu'il y a une épreuve, c'est-à-dire que j'ai encore un libre arbitre et que j'ai encore et que j'essaye encore de réfléchir. Une personne qui est complètement soumise ne réfléchit plus. Un esclave ne réfléchit plus. Il y a des gens qui ne réfléchissent plus sur cette terre.
C'est pas forcément d'accord. L'esclave qui réfléchit pas.
Tu as raison.
Parce que l'esclave, il a envie de se libérer.
J'ai compris. Mais le statut d'un esclave, c'est quelqu'un qui ne réfléchit plus. Il souffre, mais il ne réfléchit plus. C'est quoi une personne qui est manipulée? C'est quelqu'un qui réfléchit toujours. Et ça, c'est horrible. Et tu sais plus sur quel pied danser. Alors, je reviens. Bon. Donc, je reprends la scène. Ça, c'est une question que le rabbi pose. Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu d'aller chez, avec Aaron chez Paro, d'accord? Et que Moshe Rabbeinu va parler, et on a dit, et Aaron va répéter. Et je comprends pas. Est-ce que Aaron n'aurait pas pu aller seul? Aaron, certainement qu'il a une bonne mémoire, ou bien, il aurait pu écrire,
on aurait
pu
lui écrire. Il y a quelque chose dans la présence d'accord de Moshe qui devait...
Voilà. On aurait pu lui écrire un texte. Alors, tu vas me dire, Aaron aurait eu peur d'aller tout seul? On pense pas. On sait que les anciens ont eu peur, hein, les anciens, on sait, dès qu'ils sont arrivés...
Oui, ils sont partis à 25, d'accord, ils sont arrivés que deux.
Eh oui, c'est ça. C'est...
Mais a priori, il faut dire que... Se retourne, hein, mais que... A priori, d'accord, a priori... Non, il faut pas leur en vouloir, il y avait quand même de quoi avoir peur. C'est-à-dire qu'il y avait de quoi avoir peur.
Sur les fesses.
D'accord.
Ils sont pas mis sur les fesses.
Oui, mais attends.
Les anciens d'Israël.
Bon, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'eux.
C'était mauvaise. Ils avaient perdu ça.
Ça veut dire qu'on n'avait pas besoin d'eux. C'est tout. Ça veut dire qu'on n'avait pas besoin. C'est pour ça qu'ils n'ont pas trouvé cette force en eux. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas besoin d'eux. On en plus de brouiller sans eux. La question qu'il pose le rabbi, c'est comment ça se fait que Aaron n'est pas parti tout seul. À quoi sert cette mise en scène que Moshe Rabbeinu il parle, après un autre il répète, dit voilà, en égyptien, voilà ce qu'il voulait dire.
T'as raison. C'est vrai.
D'accord.
C'est toujours bon d'avoir
un... Même Hachem, il a fait
George Gaiman.
Il a fait donner la faute directe.
De toutes les façons, on est sûr de notre message. Et en plus, exactement comme la question de Yaakov, dans ce cas-là, ça c'est la Tana de Moshe Rabbeinu, il dit, mais dans ce cas-là, puisque de toutes les façons ça passe par Aaron, donne-le à Aaron. D'accord? Et là, on a la réponse. Netatira Elohim.
Il
n'y
a pas d'Elohim, il n'y a pas de prophète.
C'est que Aaron, la particularité de Aaron, c'est quoi la particularité de Moshe Rabbeinu, c'est que Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, il a la même force que Elohim. Ça veut dire quoi la même force que Elohim? Ça veut dire qu'il a une poigne divine dans sa parole. Et c'est quelque chose que même Paro le ressent. Ça veut dire comme ça. Le rabbi explique, il dit que des fois, dans le monde, on a des fois des tzadikim qui disent des choses qui ne sont pas compréhensibles. Et on se demande pourquoi ils l'ont dit.
Très bien.
D'accord?
Oui.
Pourquoi il a dit, à quoi tu sers? D'accord? Et qu'après, écoutez bien, et qu'après, par la suite, avec les années, on comprendra ce que le tzadik voulait dire. Ça prendra des années et des années. Des fois, on ne comprendra même pas. Des fois, on a un tzadik qui dit qu'on ne comprend pas.
Aujourd'hui, on n'a pas compris.
Comment ça se fait? Pourquoi? Parce que le rôle d'un tzaddik n'est pas simplement de dire des choses intelligibles et compréhensibles. Le rôle d'un tzaddik, c'est également le fait de, comme il dit ici, de faire descendre la chose dans le monde. Vous suivez? De faire descendre, d'amener la chose dans le monde, d'amener une poigne divine. Le rôle de Moshe Rabbeinu dans cette histoire, c'est de montrer, de combattre Paro avec cette poigne divine. Quel est le rôle de Aaron? Le rôle d'Aaron, c'est complètement autre chose. Le rôle de Aaron, c'est uniquement d'expliquer à Paro.
C'est l'interface.
D'accord? Qu'est-ce que veut dire cette poigne? Qu'est-ce qui se cache derrière? Mais bon, ça c'est du décor.
Donc tu veux dire qu'il il fait pas qu'une traduction, quoi.
Bien sûr. Ça veut dire qu'à la limite, si on comprend bien ce que ça voudrait dire ici, Moshe Rabbeinu aurait pu venir tout seul.
Ouais, parce que s'il parlait pas bien, d'accord, il attendez, comprenait tout à fait bien.
C'est Aaron qui attire la force.
Écoute bien la question. Le Khatrila, dès le départ, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu? Il a dit, vas-y, tout seul. Alors, comment il serait parti tout seul? On l'aurait pas compris, il parle en hébreu.
Mais attends, si Hachem
peut transformer un peu en... Attends, deux secondes.
Non, il parle égyptien.
Oui, il parle égyptien, deux secondes. Mais à chaque fois, Dieu lui dit, voilà ce que tu diras à Paro. Ouais. Et donc le Midrash nous dit, c'est quand on dit voilà ce que tu diras à Paro, c'est-à-dire qu'il le répétait exactement dans les mêmes mots. Et dès qu'il y a une nuance, une lettre qui change, tout de suite, il y a les Midrashim, la Gemara qui s'arrête, pourquoi il a changé? C'est-à-dire qu'il lui parlait en hébreu, il devait lui parler en hébreu. Pourquoi? C'est très simple. Parce que le Khatrila, dès le départ, Akadash Bahoro comptait envoyer Moshe Rabbeinu tout seul, parce que ici, c'était pas forcément un rôle explicatif. La façade n'était pas forcément nécessaire.
Parce que Pharaon ne comprend pas.
D'accord? De toutes les façons, Pharaon ne comprendra pas. Il voudra pas comprendre. Donc ça change rien. D'accord? C'est de la façade, tout ça. Eh bien, Moshe Rabbeinu, une autre question que j'aurais pu poser. Moshe Rabbeinu aurait pu écrire. On écrivait à l'époque.
Mais Hachem, il aurait pu faire que Moshe Rabbeinu ne bégaye plus.
Mais c'est ce qu'il lui a dit.
Bien.
Il lui a dit qu'est-ce qu'il fait, voilà. Je lui ai dit, je vais te faire.
Hachem aurait pu faire que Moshe Rabbeinu ne bégaye plus. Hachem aurait pu faire que Moshe Rabbeinu écrive. Il parle et qu'on va dire, attendez, je vous écris. Voilà ce que je viens de dire. À quoi sert Aaron? D'accord? C'est-à-dire que là, on voit ici clairement qu'on a deux rôles, deux missions qui sont complètement différentes. On a le rôle de Moshe Rabbeinu. C'est quoi le rôle de Moshe Rabbeinu? C'est de faire descendre la chose dans le monde.
D'amener une pointe, c'est monsieur loyal.
Une pointe,
je sais
d'accord
qui c'est,
d'amener
loyal
une pointe divine. D'accord?
On a
et explique le rabbi. Qu'est-ce qui a cassé? Qu'est-ce qui a cassé Paro? Qu'est-ce qui a cassé Paro? Ce qui a cassé Paro, c'est la poigne de Moshe Rabbeinu. Alors, je vais essayer de mettre en scène. Monsieur Junji fera mieux que moi, certainement, mais. On a ici Moshe Rabbeinu qui parle, et qui a une poigne, et Paro sent une poigne. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Et à la limite, presque, il supplie à Aaron de lui dire, dites-moi ce qu'il vient d'expliquer. Pourquoi? Parce que, même s'il y a une poigne divine, mais si Paro ne comprend pas ce qu'on attend de lui, d'accord? Il sent qu'il y a une poigne divine, mais si concrètement, il comprend pas ce qu'on attend de lui, on n'a rien gagné. Ça, c'est le rôle du Navi. C'est quoi le rôle du Navi? Et ça, on va tirer un enseignement, parce que je dois déjà m'arrêter, c'est l'heure. C'est quoi le rôle du Navi? Le rôle du Navi, c'est d'expliquer en clair qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Ça veut dire comme ça. Je vous donne un exemple. Imaginez-vous qu'il y a une manifestation divine. Dieu se montre, un miracle. Personne. D'accord? Personne ne comprend. Alors, je dois en tirer quoi? Comme conclusion. Tu tires du tout comme conclusion. Tu vas rentrer chez toi, t'es impressionné. Tu vas continuer.
Tu comprendras
non, on va y croire. On va y croire, mais dans l'esprit, dans ma vie, ça ne change rien du tout. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. D'accord?
Non, mais ton mon père.
Ah, d'accord. Ça, c'est le rôle de Moshe Rabbeinu. C'est quoi le rôle de Aaron? Le rôle de Aaron, c'est celui qui va venir par derrière cette manifestation divine et qui va dire, bon, voilà ce que ça voulait dire.
Mais tu m'as dit tout à l'heure que lorsqu'il traduisait, il fallait qu'il traduise au mot juste.
Très bien.
C'est qui? Peut-être.
C'est qui?
Je sais pas.
C'est pas grave, attendez, on fait court.
Ça va faire l'achat.
Bon, on va faire court.
D'accord.
Les raisons de quoi? On attend quelque chose?
Oui, c'est mon père.
Ah, d'accord.
La livraison.
Ils vont livrer ton père? Ils livrent quoi, hein?
Ton père.
Ah, d'accord, ok.
Quelque chose qui est privé, mais avec plaisir. Vous
voulez voir. Allez.
Bon, je finis le cours.
J'allais dire au type,
d'accord. Alors, de là, on a un enseignement.
J'ai dit tout à l'heure qu'il fallait qu'il répète au mot à mot.
Oui.
Autrement, c'est ça?
Non, c'est pas la peine.
Quoi?
Je le suis.
Non, c'est bon.
Et...
Tu connais? Tu sais qui?
Non,
mais il faut lui montrer quand même où il va poser
dire,
des choses.
Tu peux pas dire d'un côté voilà, que Aaron, il est chargé de...
Alors, regardez bien. Écoutez bien, je finis avec ça. On a Moshe Rabbeinu, on a Aaron. Le rôle de Moshe Rabbeinu, c'est d'amener la manifestation divine. C'est sa mission. D'accord?
Ouais. Quoi vient?
Claude, bien, c'est pas ton nom? Bien.
Bon, allez, on continue.
C'est pas ma cam.
Le rôle de Moshe Rabbeinu, messieurs, c'est quoi? Le rôle de Moshe Rabbeinu, c'est d'amener une manifestation divine.
De faire descendre.
Le rôle de Aaron, c'est quoi? Le rôle de Aaron, c'est d'expliquer, c'est un avis, c'est le rôle du prophète. Alors,
il explique le prophète
de la même manière.
Il répète sans
non,
sans,
attention, pas du tout. Le prophète dit, voilà ce que Dieu attend de vous.
Bon, c'est l'interface.
C'est l'interface. Alors, je conclue. Ma conclusion, c'est quoi? C'est très simple.
Ouais.
De là, on a attiré l'enseignement. Le rabbi explique, c'est comme ça. Il dit, notre génération, on est la génération, on sait très bien qu'on est une génération de la fin des temps. D'accord? Et quand on vient à un juif, on lui dit, tu sais, c'est une génération de la fin des temps, et c'est beaucoup de choses qui nous attendent, etc. C'est-à-dire, si tu veux l'impressionner, tu veux faire du Moshe Rabbeinu, tu peux le faire très facilement. Mais qu'est-ce qu'on a vu ici? Akadosh Baruch Hu n'a pas demandé à Moshe Rabbeinu d'aller tout seul. Il le dit d'amener à Aaron. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute manifestation divine, on doit toujours s'efforcer de la traduire en concret, en réel. C'est exactement les deux images qu'on a dans cette histoire. On a un Moshe et un Aaron. On a une manifestation divine, une poigne, quelque chose, on sent qu'il y a une énergie énorme, même Paro le sentait. Mais bon, c'est pas forcément qu'il va comprendre ce qu'on attend de lui. Et après, Aaron dit bon, voilà ce qu'on attend de vous. C'est comme dans la mafia. Voilà ce qu'on attend de vous maintenant. Voilà, vous avez vu le petit vieux. Voilà ce qu'on attend de vous. Il y a toujours la manifestation divine et ce qu'on attend de nous. C'est exactement la même chose aujourd'hui. Concrètement, quand on étudie un Dvar Torah, quand on peut être impressionné par quelque chose, impressionné, une manifestation divine, ça c'est le Moshe, ça. C'est très bien. C'est super. On sent une poigne, on sent une force extraordinaire. Mais toujours derrière le Moshe, il faut toujours chercher le Aaron. C'est quoi le Aaron? Ça veut dire concrètement, qu'est-ce que j'en tire? Ça, c'est quelque chose que le rabbi répétait très très souvent.
Et je pense que ce qui est bizarre chez le rabbi, c'est qu'il était un peu les deux.
Ben oui, il demandait les deux.
Comment tu sais?
Parce que c'est exactement ça.
Parce que t'as les rabbinim, par exemple, qui sont capables de faire des trucs vachement compliqués, mais on comprend rien. Tu vois?
Bon, mais
attends, mais
on sent quelque chose.
Et t'as les rabbins qui sont capables d'expliquer, par exemple, le rabbi truc,
quelqu'un qui t'explique à des gens simples des leçons vachement compliquées. Toi, il a cette qualité.
Comme toi et moi, des gens simples comme toi.
Voilà, mais tu as besoin de gens comme Ralph Kaniski, etc. Ils s'adressent
ils ont besoin
à
d'un chamache avec
des gens qui sont autour de toi. Mais par le rabbi, il faisait les deux, c'est-à-dire qu'il était capable de comprendre des choses compliquées et expliquer aux gens, trouver des exemples assez simples.
Alors, on a expliqué que justement, c'est ça la différence,
non?
C'est ça, c'est ce qu'on vient d'expliquer.
C'est d'accord.
C'est ça le rôle de Moshe et de Aaron. Le rôle de Moshe, c'est d'amener la poigne, d'amener la manifestation divine, d'amener le waouh.
Ouais.
Wow. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on comprend pas ce qu'on attend de nous. Waouh, je suis impressionné, mais je fais quoi maintenant? D'accord? Il faut un autre, il faut un exécutant par exemple qui dit bon, voilà ce qu'on attend de vous. Vous ferez ci, vous ferez ci, vous ferez ça.
Donc alors,
d'accord. Donc,
ne dis pas que Hachem pensait que.
Si.
Il savait très bien que.
Hachem pensait que Moshe Rabbeinu aurait pu faire les deux en même temps.
Non, mais il lui a enlevé une. Ah, il a enlevé une.
Oui. Hachem pensait. Il a dit, d'accord.
Pensait, il le
alors,
savait
écoutez
déjà.
Bien. D'accord.
Il y a une leçon pour nous, là.
Comment Hachem, il sait pas.
Vous remarquerez, bon, c'est déjà l'heure, bon, c'est pas grave, on est parti un peu plus loin aujourd'hui. Vous remarquerez que Rashi nous dit que c'est quoi Navi? Navi en hébreu, qu'est-ce qu'il dit Rashi?
Anava.
Non, Navi, qu'est-ce qu'il dit Rashi?
Humilité aussi.
Metur Geman, Targum en hébreu,
oui,
ça veut dire quoi?
Traduire.
Traduction. Une interface, comme a dit M. Bismuth. Le rôle de Aaron,
Windows,
c'est de traduire ce que ça veut dire.
Je comprends.
Oui, je traduis ce que ça veut dire.
D'où vient le nom de Targum?
Mais il faut les deux. Il nous faut le Wa aussi. Il nous faut le Moshe, il nous faut... De la même manière, quand on étudie un Dvar Torah, quand on va voir un Tzadik, il faut toujours avoir les deux. C'est vrai qu'on peut être impressionné, on peut être vraiment, je suis perdu devant ce qui se passe. Il faut toujours chercher quel est le Aaron que je peux tirer d'ici. Quelle est la partie concrète que je peux tirer d'ici.
Alors pourquoi tu dis à ce moment-là qu'il traduisait exactement ce qu'avait dit Moshe?
Non,
pas du tout.
Non.
T'as dit d'ailleurs que s'il dit pas la même chose...
Non, j'ai dit Moshe Rabbeinu.
Par rapport à Hachem.
Parce que c'est Elohim.
Ce que
tu viens de dire ici, mais ça tire à Elohim. Ton rôle, c'est d'aller plus fort que la logique, d'amener une pointe divine. Le rôle de Aaron, ce sera d'expliquer en clair, dire voilà ce qu'on attend de vous. D'accord.
Donc le texte de la Torah, quand on s'adresse à Pharaon, c'est Aaron qui parle.
Oui.
Donc c'est pas ce que Hachem a dit à Moshe, ce qu'il y a dans la Torah.
Oui, tu as raison. Quand on nous dit ici que ça veut dire quand on nous dit ici que c'est pas Aaron qui parle. On nous dit les mots que Moshe Rabbeinu a dit, mais Aaron a dû expliquer ça en égyptien ou a dû prendre son temps pour expliquer, c'est pas nos affaires.
Mais nous ce qu'on a nous c'est quoi? C'est ce que Moshe a dit à Aaron?
C'est les mots que Moshe a dit à Aaron, oui. Exactement.
D'accord. On sait pas ce qu'il a dit.
C'est la pointe divine.
On sait pas ce qu'il a dit.
Parce que c'est ce qui nous intéresse. C'est la pointe divine.
Oui, mais attends. Juste après là, quand Pharaon, il va lui dire enlève-moi les grenouilles.
Non, je commence là-dessus pas sur ce qu'il a dit.
Moshe il va dire pour quand tu veux.
Et
Pharaon, il va le dire demain. Et là, il a pris de son propre chef. C'est pas Hachem qui a parlé.
Alors, oui, j'ai compris. Alors, le rabbi, il dit de la même manière, je finis avec ça, il dit de la même manière, quand on est religieux, bah, au Hachem, quand on a la Torah, et qu'on a envie d'expliquer quelque chose à une autre personne, on a envie de ramener un juif à la Torah, on va avoir toujours la même chose. On va avoir le Moshe et le Aaron. C'est un peu ce que Yaakov a dit. C'est quoi le Moshe? Le Moshe, c'est le juif qui est très religieux, et qui a une poigne, et que toute personne qui commence à parler avec lui, il sent qu'il a une... Pas une énergie, mais il sent qu'il est sûr de ce qu'il fait. Il y a une shrina, il y a quelque chose, d'accord? Il y a quelque chose derrière. Mais concrètement, c'est pas pour autant qu'il va ramener quelqu'un à la Torah.
C'est même un
d'accord
handicap.
Surtout si l'autre c'est un rachat et que lui il est pas sadique.
Non, c'est que l'autre, il dit bon, il n'y a pas de problème, je sens que vous êtes particulier, mais bon, moi ça me change rien.
C'est pas ma hauteur.
Ça me change rien dans ma vie, c'est pas pour moi. D'un autre côté, on a des gens qui sont uniquement à Aaron. C'est quoi des gens qui sont uniquement à Aaron? C'est-à-dire des gens qui sont des beaux parleurs, des très bons parleurs. D'accord? Mais concrètement, quand tu te poses la question derrière cette belle parole, est-ce que la personne a changé? Est-ce qu'il a réellement été impressionné? Est-ce que sa vie va changer? Pas forcément, parce que dis bon, il a bien parlé. Et c'est ça le problème dans la vie. Le problème dans la vie, c'est qu'on a des gens qui sont Moshe, des gens qui sont Aaron. C'est-à-dire des gens qui sont des beaux parleurs. C'est des beaux parleurs, mais concrètement, il y a des bons parleurs. D'accord? On dit bien beaux parleurs aussi, non?
Oui, mais beaux parleurs, c'est péjoratif.
Non, ils parlent bien. C'est une qui parle bien, mais concrètement, il n'y a rien de ça. Et d'un autre côté, on a des gens chez qui on sent une poigne, on sent une énergie, mais concrètement, les gens ne comprennent pas ce qu'on attend d'eux. Explique le rabbi, c'est quoi notre mission à la fin des temps? Notre mission à la fin des temps, c'est d'essayer de faire Aaron, bien sûr, ça veut dire d'expliquer aux gens ce qu'on attend d'eux. Mais il faut pas que, au travers de l'écrin, ça veut dire au travers du fait que je vais essayer d'expliquer à la personne qu'est-ce que c'est le Shabbat, qu'est-ce que c'est la misère, il faut pas que dans mes mots, je perds l'éclat et la force que j'ai en moi. Parce que sinon, ça sert à rien. Il faut que derrière les mots de Aaron,
il y a les deux,
se cache l'éclat, la puissance, d'accord, l'énergie divine de Moshe Rabbeinu. C'est seulement comme ça qu'on peut réussir. Il faut que vos yeux ils brillent quand vous parlez. Il faut que les yeux ils brillent, que je sens que je suis dedans. Même si les mots que je vais dire, c'est des mots qui sont simples. D'accord ? Ça c'est quelque chose qu'on a vu très très fort, comme a dit Yaakov, de manière très forte chez le Rabbi. Que autant il y avait les messages étaient très très forts, très très forts, et autant on s'assurait pour qu'ils descendent le plus possible. Moshe à Aaron. Voilà ce que Rachid dit ici. Je relis le pasouk. Vayomer Hashem Moshe, re'e netaticha Elohim le paro. C'est, ça sera toi le Elohim de Paro. Ça veut dire quoi? C'est toi qui vas réellement impressionner Paro. Celui qui va impressionner Paro, c'est toi. Netaticha, je t'ai rendu toi. Elohim le Paro. C'est toi qui seras le Elohim de ma Paro. C'est toi qui vas impressionner Paro. C'est toi qui vas montrer la pointe divine. Mais le problème, c'est que Paro ne comprendra pas forcément ce qu'on attend de lui. Alors, Ve'aaron, achicha, Aaron, ton frère, yé neviacha, sera ton traducteur, pas le traducteur de Paro, parce que Paro a déjà compris quelque chose. Le waouh, il a déjà compris. Le rôle de Aaron, c'est quoi? C'est ton traducteur pour expliquer, dire voilà ce qu'il voulait dire.
Ton explication est super, si jamais Pharo il avait agi dans ce sens-là. Mais Pharo a fait exactement le contraire de ce qu'on a dit. Il n'a tiré aucune...
Ça, c'est ce que Rachid a dit. Il sourine. La manipulation.
Oui.
Et ça, encore une fois, pour être capable de manipuler un gars comme Pharo, il n'y a qu'une force divine qui peut le faire. Parce que Paro est une personne qui maîtrise.
Il se prend pour un dieu déjà.
Il se prend pour un dieu. Non mais c'est pas seulement ça. Hein. Il a des pouvoirs, attention. Il se maîtrise.
Non.
Il a des pouvoirs. Bah, il se prend pas pour un dieu mamache.
Mais il se maîtrise. C'est clair que c'est une personne qui se maîtrise. C'est clair que c'est une personne qui perd pas son équilibre facilement. C'est sûr ça. Tu sais quelle taille faisait Paro? Quelle taille faisait Paro?
5 mètres.
50 cm.
Ça, et Moshe faisait 10 mètres.
Moshe Rabbeinu, quelle taille faisait? D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Paro, il faisait 50 cm.
Oh là là.
Tu t'es habité à midi, début.
D'accord.
Comment est-ce que j'ai passé? J'ai pas compris.
C'est pas si... centimètres.
T'as aidé quelqu'un. C'est pas si vous comprenez ça. C'est ouais. Un chat pour toi?
C'est le chat?
Parce que ce qu'ils ont retrouvé dans les.
Le Midrash nous dit que. Le Midrash nous dit que. Mais qu'est-ce qu'il reste de 50 cm? Le Midrash nous dit que la chose suivante. Il nous dit que c'était plus haut que la logique. Comment c'est possible que quelqu'un comme Paro, quelqu'un de petit comme ça, maîtrisait des gens qui étaient beaucoup plus haut que lui? Il avait une poigne énorme. Vous comprenez pas
du tout. C'est pas une image, ça, parce qu'on a
non.
Toutes les momies. C'est des gens de 1m40, 1m50, ils étaient pas grands.
Khatiama.
C'est ça.
Non, pardon, Ama. Ama, c'est écrit.
Oui, c'est 50 cm.
50 cm, c'est écrit. C'est écrit qu'il était, le Midrash nous dit que Paro était beaucoup plus bas. Bon, peut-être c'est, parce que 50 cm, c'est quand même un nain. Peut-être qu'il
était pas un nain, 50 cm. C'est pas un nain, 50 cm.
Y a pas.
C'est un bébé.
Un nourrisson, il fait entre 49 et 51, ouais. Un nourrisson.
C'est 50 cm.
Alors c'est un shed.
D'accord. C'est extraordinaire. Mais oui, c'est un shed, exactement. C'est un démon. D'accord. Et ce qui est expliqué ici par la logique, Aaron tout seul n'aurait rien pu faire. Est-ce que vous remarquez la tournure du verset? Regarde, je t'ai rendu. Regarde, prends conscience, je t'ai rendu Elohim pour Paro, et Aaron, ton frère, sera ton prophète.
On sait ce qu'il a montré.
Ça veut dire que le vrai dialogue se passe ici entre qui et qui? Entre Moshe et Paro. C'est un dialogue de puissance, d'énergie. D'accord? C'est ça le plus fort. Ça veut dire que quand on essaie de convaincre quelqu'un à faire la Torah, c'est pas les mots le plus important. Le plus important, c'est ce que je pense au fond de moi. C'est un dialogue entre deux neshamot, entre deux personnes, entre le fond de deux personnes. Après, il y a l'écrin. Ça, c'est Aaron. Il ne vient pas. Ça, c'est seulement pour qu'on te dise dans des beaux mots, que tu comprennes ce qu'on attend de toi. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le feu qu'il y a au fond de moi.
Et on sait ce que Akadosh Baruch Hu lui a montré. Parce que dans Ré, il y a « je te montre ». Je te montre quelque chose. Et Akadosh Baruch Hu, c'est pas une expression.
Bonne question. Pour en dire Ré, regarde.
Bah, il lui a montré quelque chose.
Ça veut dire qu'apparemment, ici, Akadosh Baruch Hu, il a amené à Moshe Rabbeinu le niveau de Réia. C'est quoi la différence entre Réia et Shmia?
C'est clair.
D'accord? C'est que quand on voit quelque chose, c'est pas forcément qu'on comprend.
C'est limpide.
Mais c'est clair. Lorsqu'on entend quelque chose, c'est différent. J'ai essayé de comprendre ce que j'ai entendu, et si je comprends pas, je dis bon, peut-être j'ai mal entendu. Mais lorsque tu vois quelque chose, tu peux me raconter ce que tu veux, j'ai vu.
Ouais. Et donc?
De la même manière chez Moshe Rabbeinu. C'est pas dit que Moshe Rabbeinu comprenait ce qui se passait ici. C'était pas son but. Là, pour ici, c'était pas son but. C'était pas son but de comprendre. Le but de Moshe Rabbeinu à ce moment-là, c'était de voir. Ça veut dire de transmettre une énergie divine, mais palpable, que même Paro sentait qu'il y avait quelque chose. Mais, le problème c'était quoi? C'est que ça pouvait pas s'expliquer. C'est-à-dire que Paro n'aurait pas forcément compris ce qu'on attend de lui. Voilà pourquoi il y a eu un Aaron pour expliquer. Voilà ce qu'on attend de vous. C'est le secrétaire. C'est un Metourgaman, c'est tout. Mais le vrai dialogue s'est passé ici entre Moshe et... C'est très très fort comme enseignement.
C'est un secrétaire.
D'accord? Si.
Ah non. Le secrétaire, il ne fait que écrire ce que le...
Ah, pas du tout.
C'est ça le secrétaire.
Pas du tout. Quand tu as un grand PDG qui est un secrétaire diplômé.
Il a tous les pouvoirs.
D'accord? Elle a tous les pouvoirs. Elle dit bon, vous lui direz ça. Tu crois qu'il va lui dicter tous les mots?
Il est dans les secrets.
Là, il s'agit pas de.
Bien sûr, c'est ça. C'est que le secrétaire comprend ce qui se passe dans la tête, du PDG.
Il est capable de remplacer le PDG.
Et il est capable même de remplacer. Et donc, il comprend ce qu'il veut dire. Il dit voilà, il va te faire une lettre.
Ah, dans ce sens-là, mais.
Ah, bah oui, secrétaire général.
Il est dans les secrets. Il vient le mot.
Ça, mais le secrétaire, en principe, c'est pas ça. C'est celui qui.
C'est la secrétaire.
Tu plaisantes, tu confonds avec la.
Enfin, le secrétaire et la secrétaire.
Non, tu plaisantes.
La secrétaire de direction, elle peut prendre
Bien sûr. Il fait pas que dicter, hein. Il comprend l'idée, il est capable de te faire toute une lettre.
D'accord.
C'est
un conseiller.
Mais le plus important, c'est quoi? C'est pas le secrétaire. Le plus important, c'est le message qui c'est le fond du message, c'est le feu qui est derrière.
C'est le feu qui est derrière, bien sûr.
Et ça, c'est très important. Il ne faut pas perdre le feu. Il ne faut pas qu'à cause de la religion, on se met à rentrer dans des beaux mots, mais qu'on perd le feu qui est au fond de nous.
Bien sûr.
Faire très attention.
C'est sûr que vous faites attention à la routine.
Exactement. Le plus important, c'est le Moshe. Qui c'est qui va parler à Pharaon? Netatira Elohim, les Pharaons. C'est toi qui parleras à Pharaon, en vérité. Et c'est pour ça que c'est important que tu sois là. C'est toi qui vas parler. C'est le feu qui est derrière. C'est ça ce qui doit impressionner Pharaon. Voilà. Bon, aujourd'hui, on est parti. Très bon. J'ai vu que vous étiez là, donc... Ah non, on s'arrête là.